Alors voilà, aujourd'hui l'émission Tête à Claque, c'est pas le siège, hein, c'est le CIDFF,
l'accueil de jour,
et donc en compagnie
Vanessa Pérez, donc je suis référente sociale au CIDFF.
Ok, et ben alors vous allez peut-être nous expliquer déjà, parce que c'est un acronyme, qu'est-ce que ça veut dire déjà?
C'est le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Voilà. Donc c'est une association, mais qui a une fédération nationale à Paris. Donc en fait, on a quand même un siège à Paris des CIDFF. Et après, il y a, je crois, je ne sais plus si c'est 95 ou 98 CIDFF sur l'ensemble du territoire. Après, on fonctionne tous de façon différente d'un département à un autre.
C'est autonome.
Voilà, c'est autonome. Mais on a quand même une conduite générale, nationale, en lien avec le CIDFF de Paris.
Ok. Et là, donc, on est sur Valence. Et là, vous êtes sur Valence depuis longtemps? Ça existe depuis longtemps?
Alors, sur Valence, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les 40 ans ont été fêtés de l'association.
Ah ouais, 40 ans, enfin, sur Valence en tout cas.
Oui, okay. Voilà. Donc c'est implanté depuis longtemps.
Et là, vous êtes les seuls référents à ce niveau-là sur la Drôme?
Alors, on fait plein de choses au CIDFF. Hein, il y a deux gros pôles, un pôle pour l'emploi et un pôle pour tout ce qui est violence faite aux femmes. Voilà, et du coup, ça fait... Alors, sur l'aide aux victimes, on va dire ça comme ça, il y a deux associations, il y a le CIDFF et il y a Remède. Après, on a une spécificité sur l'accompagnement des violences faites aux femmes.
Okay.
Et violences conjugales.
D'accord. Et alors, le pôle emploi, on va dire?
Donc là, on a des collègues qui sont conseillères emploi et qui peuvent accompagner des personnes, soit dans la recherche d'emploi, soit pour faire une formation ou pour changer d'emploi. Donc nos collègues, on travaille nous en lien avec elles par rapport aux femmes qu'on accompagne, mais elles peuvent recevoir d'autres publics, enfin c'est pas spécifique.
Voilà. C'est pas spécifique aux femmes?
Voilà, ni spécifique aux femmes, ni spécifique aux femmes victimes de violences, comme on les accompagne ou quoi.
D'accord, voilà. Ça c'est pour le côté pôle emploi. Alors que là, sur le côté violence aux femmes, c'est vraiment spécifique pour les femmes en but avec une violence quelle qu'elle soit.
L'accueil de jour, oui, on est vraiment spécialisé pour les femmes victimes de violences. Après, le CIDFF, il a aussi tout ce qui est accès au droit. Donc ça, c'est des juristes qui ont des permanences un peu partout sur le territoire. Et là, elles peuvent aussi bien, enfin, accueillir le tout venant, hein, qui a une question sur le droit du travail, le droit des étrangers.
Même
les hommes aussi. Voilà.
Okay.
Après, elles accueillent majoritairement des femmes, et c'est vrai qu'elles ont une grosse affluence sur les femmes victimes de violences, mais un homme peut aller sur une de leurs permanences parce qu'il a une difficulté ou des informations.
Donc on est bien d'accord, ça fait toujours partie du CIDFF.
Ouais, tout à fait.
Ok, d'accord, ça peut être aussi ouvert aux hommes finalement.
Voilà, les permanences juridiques, l'accès au droit, ce qu'on appelle l'accès au droit, c'est ouvert à tous. Voilà, il y a plusieurs permanences sur l'ensemble du territoire.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc sur Valence, vous êtes le seul accueil de jour?
Oui, accueil de jour, oui. Okay. Là, spécifique pour les femmes victimes de violences.
D'accord. Alors, ça consiste en quoi un accueil de jour?
Alors, l'accueil de jour, on a une référente sociale, on a une juriste qui est rattachée à l'accueil de jour et on a aussi une psychologue qui est présente deux jours par mois. Voilà. Et là, des femmes peuvent se présenter spontanément. Ou sinon être orientée, ce qui est la plupart du temps, par des partenaires. Partenaires des services sociaux, partenaires de l'hôpital, partenaires d'autres associations, voilà.
Hein, est-ce donc... que vous avez un lien avec, par exemple, une gendarmerie ou...
Oui, alors en fait, au CIDFF, on a aussi trois collègues intervenantes sociales en commissariat et en gendarmerie, donc qui, elles, sont directement physiquement soit dans les gendarmeries, soit au commissariat, qui peuvent recevoir des victimes dans ce cadre-là et les orienter sur l'accueil de jour, par exemple.
D'accord. Je vais juste faire un petit pas de côté. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est justifié à votre avis que maintenant on ne peut plus faire de main courante ?
Oui, effectivement. Dans le cadre des violences au sein du couple, il n'y a plus de main courante. Hein, c'est directement une plainte.
D'accord. Et si la personne ne peut pas porter plainte parce qu'on sait l'emprise, etc.
Alors, si elle ne veut pas ou ne peut pas déposer plainte, à partir du moment où elle se sera présentée dans une gendarmerie ou un commissariat, qu'elle aura évoqué la question de violence qu'elle subit, ils seront obligés quand même, au niveau de la gendarmerie ou du commissariat, de faire remonter par un procès verbal au tribunal, au substitut du procureur, que cette dame est victime. Ça ne peut pas rester sans rien, en fait. Voilà. Okay. Il faut que le substitut, ou sinon c'est parce que le substitut du procureur décide qu'il n'y a pas de suite, mais de toute façon il sera informé qu'une dame, madame Intel, s'est déplacée, a fait part des violences qu'elle subissait, mais qu'elle ne souhaitait pas ou ne pouvait pas déposer plainte.
Ok, donc ça veut dire quand même qu'il y a une forme de main courante, on va dire, enfin il y a une trace quoi.
Oui.
Donc c'est quand même important.
Oui, tout à fait.
Ok, très bien.
Et donc là, vous êtes un accueil de jour, donc est-ce que ça veut dire que les femmes peuvent dormir ici ou...
Non, donc du coup, là, on n'est que sur un accueil de jour, voilà, sur des, des horaires journées type 9h-17h. Alors après, effectivement, il y a un autre dispositif qui existe au CIDFF, qui s'appelle le réseau d'accueil citoyen. Voilà, et là, pour le coup, c'est assez récent, c'est 2019. Donc ça émane en fait d'un groupe de travail qui se réunit sur le secteur de Romanet avec différents professionnels qui interviennent sur le champ du social et de l'accueil des femmes victimes de violences, donc des CMS, des associations, l'hôpital, enfin voilà, divers partenaires. Et en fait, il y a une réflexion menée sur quoi mettre en place comme alternative en fait à l'hôtel, parce que les femmes victimes de violences aujourd'hui, quand elles sont mises à l'abri, le plus souvent c'est via le 115 ou le SIAO, et là c'est du coup une protection, une mise à l'abri. C'est le service d'investigation d'orientation, c'est en fait c'est un service de l'État. Hein, qui est mis en place pour tout ce qui est mis à l'abri. Pas que pour les femmes victimes de violences. Le 115, tout le monde peut être mis à l'abri plutôt que d'être à la rue et aller à l'hôtel, en fait. Voilà.
Mais c'est pas spécifique aux femmes en danger.
Voilà, mais par contre, effectivement, une femme qui est victime de violences, il lui sera toujours proposé une mise à l'abri à l'hôtel. Ils se débrouilleront toujours pour qu'il y ait une place pour elle. C'est une priorité, en fait. Voilà. Mais là, l'idée, c'était de trouver une alternative, en fait, pour que plutôt qu'une femme se retrouve toute seule à l'hôtel, où ça peut être quand même compliqué, angoissant, avec beaucoup d'appels répétitifs, souvent de l'auteur pour savoir où elle est, le harcèlement, enfin voilà, et des fois avec des enfants dans une chambre d'hôtel. Enfin, voilà, c'était vraiment une réflexion pour proposer autre chose pour ces femmes. Et il y avait déjà eu dans la Drôme et l'Ardèche un réseau de ce type avec des bénévoles qui pouvaient accueillir chez eux. C'était le réseau Phare à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui a été arrêté.
Et pourquoi ça a été arrêté?
Je pense que c'était des questions financières. Voilà. On a réimpulsé en fait pour remettre en place ce type de réseau de bénévoles pour des mises à l'abri de femmes victimes de violences, soit seules, soit avec les enfants. Donc en août 2019.
Et alors, du coup, ça a bien marché ?
Donc, ça a plutôt bien fonctionné. On est à peu près entre 10 et 12 lieux d'accueil aujourd'hui sur la Drôme. C'est un peu fluctuant. Il y en a qui commencent, des fois qui arrêtent. C'est pour ça que, voilà, 10 et 12. Effectivement, on a dû accueillir depuis 2019 un peu plus de 50 femmes sur ce réseau, sur ce dispositif. C'est un financement du département, donc c'est le département de la Drôme qui finance la mise en place du réseau d'accueil citoyen.
Alors, quand vous dites qu'il finance, ça veut dire quoi? Ça finance quoi? Parce que les gens qui accueillent sont payés ou...
Alors non, ils sont bénévoles, c'est bien ce que j'expliquais, mais par contre, alors ça finance mon poste, puisque du coup je coordonne effectivement le réseau d'accueil citoyen, et ça finance aussi une psychologue qui intervient pour l'analyse de la pratique des accueillants et aussi pour des temps de formation pour les accueillants. Voilà, donc ça, c'est aussi financé. Et des remboursements de frais de déplacement pour les accueillants, parce que comme on a des accueillants sur l'ensemble de la Drôme et que les formations ou l'analyse de la pratique se fait à Valence, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est ce qui est financé aujourd'hui sur le réseau d'accueil citoyen. Ensuite, effectivement, c'est vraiment un engagement bénévole hein, des accueillants qui vont accueillir des femmes seules ou avec enfants. Ça dépend aussi de s'ils proposent une chambre, deux chambres, matériellement ce qui est possible pour eux. Et sur une durée de un mois renouvelable une fois. Donc, c'est deux mois maximum le temps d'accueil. Voilà. Et en sachant aussi que, comme ils sont bénévoles, ça peut être un accueil qu'une fois dans l'année. Ou deux fois dans l'année, ça dépend de leur disponibilité. Voilà, on s'adapte vraiment aussi aux possibilités des accueillants. Voilà.
Alors ça veut dire que bon, il y a quand même un investissement un peu financier de leur part, oui. Dans le sens où il faut nourrir les gens. Par exemple ?
Oui, tout à fait. Alors ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Hein. On a des situations de femmes effectivement qui n'ont aucune ressource, puisque complètement isolée, voilà. Mais on a aussi des situations de femmes qui ont déjà des droits parfois ouverts à la CAF. On a aussi des dames qui travaillent, qui ont un salaire. Bon, elles peuvent être momentanément en arrêt maladie, mais elles ont quand même un salaire. On a aussi des femmes qui touchent le chômage ou une allocation adulte handicapé. Enfin voilà, ça peut arriver. Alors après... on ne fixe pas une participation financière pour les femmes qui sont accueillies sur le réseau. Il n'y a rien de fixe, en tout cas. Mais voilà, elles vont participer aux cours. C'est vraiment un arrangement qui se fait avec les accueillants. Moi, je n'interviens pas forcément sur ce point-là. Ils s'arrangent et voilà, on voit comment ça se passe.
D'accord. Et donc, vous avez quand même un recul maintenant par rapport à 2019. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt positif?
Alors, les retours qu'on a des femmes qui sont accueillies, c'est plutôt positif. Hein. C'est vrai qu'il y a souvent des liens qui peuvent être maintenus après l'accueil dans certains cas. C'est un moment quand même charnière. Hein. La mise à l'abri, c'est le moment où elles partent du domicile. Il y a beaucoup de fragilité, d'insécurité à ce moment-là, de questionnement. Enfin, voilà, elles sont très déstabilisées. Donc, c'est un moment fort où les personnes qui les accompagnent, aussi bien les accueillants que moi sur ce temps-là pour rechercher un logement, etc. Il y a des liens quand même forts qui se créent. Voilà, mais après, pour certaines, elles tournent aussi la page et elles repartent sur d'autres projets. Il n'y a pas forcément de nouvelles sur du long terme. Mais en tous les cas, l'observation qu'on fait, parce que c'était aussi ça l'hypothèse, c'était de réduire les retours à domicile, parce que souvent d'être à l'hôtel toute seule, enfin avec un monsieur qui peut harceler, et puis d'être complètement démunie, on se dit ben finalement est-ce que j'étais vraiment si mal avant, enfin voilà, et avec un risque de retour. Donc l'hypothèse c'était de se dire que sur le réseau d'accueil, peut-être il y aurait moins de retours au domicile. Aujourd'hui, sur les 50 femmes qui ont été accueillies, de tête comme ça, je dirais qu'il y a eu 5 retours à domicile. Donc voilà, c'est plutôt ça pour nous, c'est positif.
Et est-ce qu'on fait vraiment la différence par rapport à avant, quand il n'y avait pas cet accueil?
Non, on n'a pas forcément, nous, les chiffres du SIAO pour le coup, hein, donc du 115. On ne sait pas exactement, eux, voilà, quels étaient leurs stats par rapport à ça.
Ouais, ça serait intéressant de savoir la différence par rapport à un accueil à l'hôtel et un accueil en famille. Bien que bon, je pense quand même que oui, effectivement, ça doit être plus sympa. Quoi.
Ouais. Et c'est vrai que les accueillants, ils ont quand même cette vigilance par rapport au téléphone, s'ils sentent que la dame est en difficulté, de pouvoir dire, voilà, peut-être là, il faut éteindre un peu le téléphone, il faut pas répondre, ou essayer de lui donner des pistes, ou dire, peut-être là, il faut éteindre le téléphone et tu en reparleras avec Vanessa, parce que moi, en fait, je vais voir les dames chez les accueillants au minimum une fois par semaine, voire plus les premiers temps s'il y a besoin, et pour que je puisse en reparler avec elles, voir avec peut-être une juriste, est-ce que il y a une notion de harcèlement qu'il faut aussi aller déposer au niveau de la gendarmerie, s'il y a eu 55 appels ou... Enfin, voilà. Donc, on essaye d'accompagner aussi ça et les accueillants ont une place importante.
Est-ce que ça représente une forme de danger? Parce que sur le principe, ce sont des femmes en danger, hein, parce qu'elles ont quand même encore leur téléphone. Est-ce que du coup, elles, par exemple, est-ce qu'elles pourraient communiquer l'adresse d'un accueillant? Est-ce qu'il y a une... Enfin, je ne sais pas, comment vous gérez ça?
Alors, bon, c'est vrai qu'on est très vigilant à tout ce qui est la géolocalisation, faire attention au niveau du téléphone par rapport à ça, qu'elle soit vigilante, parce que la seule vraiment grande règle, on va dire, dans le cadre du réseau d'accueil citoyen, c'est de ne justement pas communiquer, forcément, l'adresse des accueillants. Hein, ça, c'est vraiment ce qui leur est dit et ce qui est dit aux enfants, parce que c'est aussi ça parfois la difficulté, surtout quand il y a des adolescents, que vraiment cette adresse, pour leur protection, mais aussi pour la protection des accueillants, doit ne pas être divulguée. Alors, c'est vrai que c'est une des premières craintes qui est remontée, hein, quand des personnes nous contactent pour accueillir. Enfin, souvent, c'est... voilà, donc effectivement, on explique qu'il y a cette vigilance sur la géolocalisation, cette règle, il y a un contrat d'accueil, hein, qui est signé entre la personne accueillie et les accueillants. Ça fait partie de la grosse règle en gras sur le contrat. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, il peut y avoir un risque. Hein, nous, c'est la seule fois, notre expérience, la seule fois où on a eu un conjoint qui s'est présenté au domicile, c'est en fait une adolescente qui avait donné l'adresse à son père. Hein, donc c'est vrai qu'on essaye vraiment d'être vigilant. C'est arrivé une fois, bon, il n'y a pas eu du tout de difficulté. Hein, monsieur est reparti. Voilà, la gendarmerie serait intervenue sinon. Parce qu'on prévient en fonction du lieu d'habitation des accueillants. En général, on essaie toujours de faire un lien avec la gendarmerie ou le commissariat local pour dire qu'il y a une femme qui est mise à l'abri chez ces personnes. Voilà. Pour qu'il y ait aussi une vigilance, si les accueillants appellent, qu'il y ait quand même une prise en compte rapide. Hein. Bon, on prend quelques garde-fous, quelques sécurités, voilà, pour que personne ne soit en danger. Et il faut aussi que la femme se sente en sécurité dans cet espace. Hein. Donc, voilà.
Mais du coup, parce que bon, quand il y a des enfants, des adolescents, ils vont à l'école, etc. Donc la difficulté, c'est peut-être de trouver des domiciles qui soient quand même, qui leur facilitent encore l'accès à ça, ou quand ils sont mis vraiment hors de danger, on estime que pendant un certain temps, ils vont pas à l'école, ou personne ne bouge, ou comment ça se passe?
Ben, en fait, c'est très variable. C'est tout du cas par cas, en fait. Chaque situation, c'est ça, c'est que nos 50 accueils, enfin, je dirais ça comme ça, c'est 50 situations différentes, demandes différentes, inquiétudes différentes. Donc, bon, il y a eu de tout. Il y a eu des femmes qui ont voulu rester à proximité pour maintenir l'école et que malgré qu'il y ait des violences au sein du couple, monsieur ne cherchait pas forcément ni à les suivre, ni à aller à l'école, chercher les enfants. Il y a eu des situations où, connaissant le profil de monsieur, ou qu'il avait déjà des difficultés avec la justice, là, il y a eu un vrai éloignement. Et c'est vrai que pour les enfants, je pense à une situation, du coup, les institutrices ont donné voilà, du travail à faire sur le lieu d'accueil pendant un temps, et après il y a eu l'audience et il y a eu une incarcération de monsieur, madame est rentrée chez elle. Enfin, après il y a aussi entre temps parfois une décision au niveau du parquet, du tribunal, qui dit qu'il y a une interdiction d'entrer en contact, du coup il peut y avoir un retour plus facile. Enfin voilà, il y a plusieurs situations où parfois la scolarité, on a aussi rescolariser des enfants, même si on sait que c'est un temps court chez les accueillants, mais rescolariser à l'école proche des accueillants pour qu'il y ait quand même, c'est aussi possible. Enfin, je veux dire, tout est un peu, comme je vous dis, réfléchi pour chaque situation, au mieux pour les enfants, pour la dame, l'éloignement si c'est nécessaire, maintien à proximité si c'est possible. Enfin, voilà, tout est un peu. Oh, vraiment, c'est.
Il nous faut. Pas.
Voilà, il nous faut de la souplesse. Par rapport à notre cadre pour pouvoir s'adapter aux situations. Donc, on peut aussi proposer sur le réseau d'accueil des temps de répit, c'est-à-dire pour des dames qui sont justement à l'hôtel avec leurs enfants, et ben on peut aussi proposer pendant les vacances scolaires qu'elles puissent aller une semaine chez des accueillants, voilà, pour souffler, respirer, enfin voilà.
Ouais. Alors, vous êtes partie sur l'idée que c'était un mois, voire deux. Hein, c'est ça? Et après, qu'est-ce qui se passe?
Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a plutôt bien réussi à tenir ce délai. Donc il peut y avoir soit des personnes, des femmes qu'on accueille qui retrouvent un logement dans le parc privé, dans le parc social, même si je vous avoue depuis plusieurs mois ça a quand même compliqué au niveau des logements sociaux, mais ça peut arriver parce qu'avec un dépôt de plainte elles peuvent être parfois prioritaires pour être logées. Voilà, donc dans le parc privé, dans le parc public, il peut y avoir aussi une solution encore temporaire, donc d'un logement temporaire, soit au niveau, là encore, du SIAO, je vous expliquais tout à l'heure, qui peuvent intervenir dans l'urgence, mais ils peuvent aussi intervenir dans ce qu'on appelle l'insertion, donc sur des appartements diffus, temporaires, enfin voilà. Et puis, il peut aussi y avoir une solution familiale qui est trouvée, parce que le fait d'être parti, ça permet de renouer parfois des liens avec sa famille qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et elles peuvent aussi trouver une solution familiale. Donc c'est vrai que dans les deux mois, on arrive quand même à trouver...
Ah oui. Et ça fait partie aussi de votre travail, de trouver l'après, en fait.
Tout à fait. Donc ça, c'est l'accompagnement que moi, je vais proposer quand il y a une mise à l'abri. C'est sur toutes les démarches qu'il y a à faire. Donc ça peut être une ouverture de compte, ça peut être faire les démarches au niveau de la caisse d'allocation familiale pour avoir des ressources, les recherches de logement, peut-être aller aussi voir un médecin, enfin... aller déposer plainte si elles n'ont pas pu le faire ou qu'elles ne voulaient pas le faire tant qu'elles étaient au domicile, mais maintenant qu'elles sont à l'abri, elles acceptent, elles se sentent de pouvoir y aller. Donc voilà, c'est tout l'accompagnement que moi je propose en lien avec mes collègues juristes, parce que s'il y a besoin qu'elles voient une juriste, j'oriente sur une collègue. Et puis on a aussi une sorte de partenariat avec une psychologue qui peut intervenir sur le réseau d'accueil citoyen pour les femmes et les enfants s'il y a besoin le temps de la mise à l'abri.
Voilà. Est-ce qu'il y a un profil d'accueillant ?
Alors non. On a, au niveau des accueillants, on a des accueillants qui sont à la retraite, on a des accueillants qui travaillent, on a des accueillants qui sont en couple, on a des accueillantes femmes seules, et on avait un accueillant, mais qui, pour des raisons de santé, a dû arrêter les accueils, mais un accueillant homme seul aussi. Donc on avait vraiment tous les accueils.
Oui, parce que c'est vrai qu'on imagine un petit peu qu'il faut être quand même disponible, parce que, comme on disait, sinon elles sont seules. Donc, non, ce n'est pas forcément utile que la personne soit là 24 heures sur 24,
non,
en fait.
Pas du tout. On a une femme seule qui accueille, qui travaille. Bon, alors après, elle est dans la restauration. Donc, elle a des horaires un peu en décalé. Donc, elle peut être un peu là sur la journée et par contre, moins en soirée. Mais bon, voilà. Et après, on a des couples d'accueillants qui, les deux, travaillent. Donc, voilà, la femme peut effectivement être seule la journée, prendre les repas le soir avec la famille, les week-ends. Après aussi, c'est parce qu'en fait, c'est des partenaires qui vont orienter les femmes sur le réseau d'accueil citoyen, donc des assistantes sociales de secteur, l'hôpital, plusieurs partenaires ou des collègues qui travaillent au CIDFF. Et en fait, en fonction un petit peu de la description qu'elles vont faire de la situation de la dame, de psychologiquement dans quel état elle est, des besoins qu'elle a, je vais aussi réfléchir en fonction de ça. Quel accueillant peut-être est le mieux disponible, ou une dame très autonome qui travaille, si les accueillants travaillent, ça peut tout à fait le faire. Enfin, voilà, donc je vais essayer aussi d'adapter les besoins de la femme à accueillir avec ce que les accueillants en face proposent aussi.
Vous avez eu des difficultés, par exemple, d'accueillants qui vous ont fait remonter une difficulté particulière par rapport à l'accueil ?
Alors, une difficulté particulière. Alors, on a, du coup, il y a de l'analyse de la pratique, ce que je vous disais, c'est-à-dire avec une psychologue clinicienne.
C'est obligatoire ?
Oui, quand les accueillants s'engagent sur le réseau d'accueil citoyen, effectivement, ils s'engagent aussi à pouvoir participer à l'analyse de la pratique. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est quand même pas rien, pas anodin d'accueillir ces femmes chez soi, enfin, avec les difficultés qu'elles ont, les souffrances qu'elles ont. Enfin, voilà, donc c'est quand même qu'il y ait cet étayage, cette réflexion, ça me porte, et ils en sont tous conscients et ravis, ils investissent vraiment ce lieu pour parler de leur expérience, enfin, voilà. Donc, après, ce qui revient, on va dire, en difficulté, après, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais parfois, c'est tout ce qui est en lien avec la cuisine, l'espace de la cuisine, en fait, parce que bah, les habitudes alimentaires des uns et des autres, les contraintes alimentaires, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on veut manger, ce qu'on aime. Enfin, c'est vrai que tout ce qui se joue autour, je pense que c'est en France, c'est un moment important, le repas, et du coup, tout ce qui se joue dans la cuisine, voilà, ça demande de s'adapter, enfin... d'accepter des choses qui sont différentes. Enfin, oui, c'est vrai que souvent, les femmes plus accueillantes amènent ça quand même dans ce que ça peut bousculer chez elles. Ah, voilà. Voilà. Et puis, parfois aussi, ce qu'elle peut amener, c'est des choses autour des enfants. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces femmes, souvent, elles ont été beaucoup disqualifiées par leurs conjoints sur leurs compétences maternelles, qu'elles savent pas faire, qu'elles sont nulles, qu'elles seront jamais des bonnes mères, enfin voilà. Et du coup, elles ont quand même beaucoup besoin d'être rassurées après, quand elles sont mises à l'abri, que ce qu'elles font, ben oui, en fait, c'est adapté, ou oui, il n'y a pas de souci, elles y arrivent, elles savent faire. Enfin, beaucoup besoin, voilà, d'être revalorisées. Alors, pas que sur le champ de la parentalité, sur beaucoup d'autres champs, parce qu'elles ont une estime d'elles souvent, voilà, très... rabaisser, mais c'est vrai que sur les enfants, c'est aussi important de pouvoir ne pas prendre sa place, de bien lui laisser sa place de mère, parce que des fois, les accueillants auraient tendance à vouloir faire, prendre en charge, et du coup, garder la bonne distance. Enfin, voilà, ça, je sais que c'est souvent abordé en analyse de la pratique aussi. Mm-hmm.
Oui, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut être tentant de prendre le relais sur quelqu'un qu'on sent fatigué et on se dit, bon, on va lui rendre service, en fait, alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, quoi. Mais l'analyse de la pratique, j'imagine, sert à ça aussi.
Complètement. C'est vraiment le but et c'est vraiment tout ça qui peut être échangé, des expériences des uns des autres et le regard de la psychologue voilà qui apporte aussi quelque chose d'un peu plus voilà théorique sur plein d'apports différents, enfin ouais, non, vraiment c'est riche, ouais.
Donc là vous avez combien de familles dans votre portefeuille?
Alors en fait aujourd'hui avec un petit peu du coup les soucis de santé qu'on a pu rencontrer chez un accueillant, je voudrais pas dire, je crois qu'on est à 10 lieux d'accueil là au moment où on se parle, et on manque de lieux d'accueil, en fait. Okay. Hein, on manque de lieux d'accueil parce que pour certains accueillants, ils sont là depuis le début, donc ça fait 4 ans. Donc, je ne dis pas du tout qu'ils se fatiguent, mais je pense que c'est bien qu'il y ait du renouvellement quand même, avec des nouveaux accueillants qui puissent venir sur le réseau. Et puis voilà, entre les indisponibilités parfois des uns, des autres, parce que, ben voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des bénévoles, donc ils peuvent partir un mois quelque part, enfin des petits-enfants, normal, quoi. C'est vrai que si on pouvait avoir 15 lieux d'accueil sur la Drôme.
En tout,
ce serait bien, ouais.
D'accord, ça serait suffisant.
Alors, suffisant. Voilà, je sais pas.
Enfin, plus il y en a, et mieux c'est, quoi.
Voilà, plus il y en a, mieux c'est. Mais là, depuis quelques mois, je sens qu'il y a besoin aussi d'un renouvellement, de nouveaux lieux d'accueil, et que c'est important pour la dynamique de ce réseau aussi, que bah, y en a qui puissent arrêter parce qu'ils ont fait un certain temps, et puis d'autres qui arrivent. Enfin voilà, je pense que c'est important. Quand on donne de soi comme ça, voilà, je pense que... il y a des moments où on peut vouloir lever un petit peu le pied, que d'autres prennent la relève, enfin voilà.
Et est-ce qu'en général, sur les accueils que vous avez déjà depuis 4 ans, est-ce que la fréquence, on va dire, c'est quoi, une ou deux fois par an ou plus?
Non, voilà, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça.
Ça correspond à peu près à 4 mois dans l'année, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est ça?
Tout à fait, ouais.
Okay. Ouais. Donc en général, on peut partir sur l'idée que c'est quand même 2 mois pratiquement sûr, en fait.
Oui, c'est par contre sur le temps d'accueil, en moyenne, oui c'est ça, on est sur un mois et demi, 2 mois, de toute façon. Hein, donc on peut partir sur ce principe-là déjà, que c'est un temps d'accueil de 2 mois, et puis voilà, peut-être 2 fois dans l'année.
Et je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de fréquence de demande en fait finalement, enfin comme une sorte de graphique où on se dit tiens, il y a des périodes où on sait que ça va être plus catastrophique que d'autres ou pas?
Alors, on a tendance à dire en fin d'année,
du coup,
ouais, on a tendance à quand même à dire que sur cette période-là, il y a souvent une montée. Alors, et en même temps, c'est aussi une période où les accueillants du réseau sont parfois moins disponibles aussi. parce que eux-mêmes, pour le coup, sont, bah, ils sont en famille, voilà. Donc, c'est vrai que c'est aussi une période où ça m'arrive, moi, de refuser, en fait, d'être sollicitée pour mettre en place des mises à l'abri pour des femmes et de ne pas avoir en face les accueillants disponibles pour proposer ces mises à l'abri. Donc après, ça peut aussi être, et ça, on travaille bien là-dessus avec le 115, c'est-à-dire ça peut aussi être un temps d'hôtel où on sait que pendant, par exemple, une semaine, la femme va être accueillie à l'hôtel avec ses enfants, mais qu'à compter du 2 janvier, on pourra basculer sur un accueil sur le réseau d'accueil citoyen. Voilà, qu'il y aura une disponibilité à ce moment-là. On peut aménager des choses comme ça aussi avec le SIAO. Il y a une souplesse avec une ou deux nuits d'hôtel et les accueillants prennent le relais, par exemple. Voilà.
Il n'y a pas d'appartement réservé, par exemple, pour l'accompagnement d'urgence, l'hébergement d'urgence plutôt, plus que l'hôtel. Hein, je parle, il y a l'hôtel, mais il n'y a pas des logements.
Alors, sur la Drôme, il y a 4 appartements d'urgence. Il y en a 2 sur la communauté de communes du Val-de-Drôme et il y en a 2 sur la communauté de communes Porte-Drôme-Ardèche. Donc 2 plutôt Sud-Valence et 2 plutôt Nord-Saint-Vallier, là-haut. Voilà. Et ça fait 4 appartements sur le département, appartements d'urgence. Et ça, c'est vraiment une volonté des communautés de communes. C'est vraiment eux, voilà, qui ont la volonté que dans leur commune, il y ait un appartement d'urgence. Et en fait, on fait une convention pour que nous, au niveau du CIDF, on accompagne les femmes le temps où elles sont dans ces appartements. Donc là, c'est 6 semaines renouvelables une fois, les appartements. Donc ça fait 3 mois sur la liste à l'abri.
Oui, pareil pour le même processus, c'est-à-dire après chercher des solutions pérennes. En fait, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de foyer d'accueil.
Alors, dans l'urgence, dans la Drôme, je crois qu'on n'a pas de place en collectif. Voilà. Dans l'urgence, c'est l'hôtel. Et après, par contre, elles peuvent basculer, si ce n'est pas très beau, mais elles peuvent passer de l'hôtel à soit ce qu'on appelle des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. Donc ça c'est du collectif.
C'est où, ça, c'est quoi?
Alors par exemple sur Valence, alors je veux pas dire de bêtises, mais pour moi il y en a un collectif réservé aux femmes victimes de violences, et après ça va être Ardèche. Et après il y a aussi dans les hébergements d'urgence, donc après la mise à l'abri, des appartements diffus et qui sont des appartements partagés. Donc, où c'est une sorte de colocation avec une ou deux femmes, deux femmes du coup, c'est une colocation, dans des appartements diffus.
Donc, ça veut dire que ces appartements sont déjà en colocation? Enfin, comment ça se passe? Je ne comprends pas trop.
C'est des appartements, alors qu'on dit ciblés pour les femmes victimes de violences, mais du coup, elles ne sont pas seules dans ces appartements et c'est du temporaire, c'est toujours en attendant qu'elles trouvent une autre solution, en fait.
Voilà. D'accord, donc ça veut dire que ça peut être pour une personne déjà. Voilà. Et après, une deuxième peut intervenir, en fait. Voilà, c'est ça. Mais elle peut être seule ou en colocation.
Voilà, tout à fait. Sur la base, c'est de la colocation. Et après, soit on arrive, il y a déjà quelqu'un, soit on arrive, il n'y a personne. Mais on sait qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va arriver.
Voilà. Ah oui, donc ça se rajoute aux 4 appartements, en fait, qui sont déjà
Alors, les 40... appartements des communautés de communes, les 4 dont je vous ai parlé, ça, c'est des appartements où elles sont toutes seules. C'est vraiment pour elles, le temps qu'elles trouvent autre chose. Okay. Voilà.
D'accord.
Mais ça, c'est vrai que c'est complexe au niveau des dispositifs.
Oui, c'est vrai.
Fait,
hein.
Oui.
Ouais,
oui. Oui, mais c'est bien de savoir que ça existe, hein, parce qu'en fait, on n'est pas spécialement au courant. Parce que moi, j'avais regardé des émissions, des choses comme ça, et c'est vrai qu'on voit des foyers par moment qui sont vraiment ciblés pour les femmes en danger. Et je me suis toujours demandé si ça existait, oui, dans la Drôme, quoi.
Oui, dans la Drôme, il y en a un, si je ne me trompe pas, parce que ça change aussi, hein, donc après, ça peut... Mais pour moi, ma connaissance, il y en a un dans la Drôme, du collectif, pour femmes, et notamment les femmes victimes de violences.
D'accord. Voilà.
Vous n'êtes pas forcément en lien avec ce type de... Non ?
Non, pas forcément.
Vous vous occupez vraiment, finalement... du soutien à domicile, quoi.
Voilà, enfin, du réseau d'accueil citoyen, donc ça, voilà, et des femmes qui sont dans les 4 appartements d'urgence dont je vous ai parlé. Là, par contre, je les suis aussi le temps de leur mise à l'abri dans ces appartements-là.
D'accord, donc vous pouvez aller jusqu'à Saint-Vallier.
Oui. Okay. Ah oui, oui. Par contre, c'est, et voilà, au niveau du réseau d'accueil citoyen, c'est pareil, c'est assez étendu, hein, puisqu'on a une, l'accueillante la plus loin, elle est à côté de Pierre-Latte. Voilà,
ah,
donc,
oui, okay.
Et je me déplace toujours pour voir les femmes dans, là où elles sont mises à l'abri, chez les accueillants.
Okay.
Avec mon ordinateur, on fait les démarches s'il y a besoin. S'il y a besoin d'un accompagnement physique à la gendarmerie, je peux les accompagner. Enfin, bon, voilà. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui retournent chez elles, en fait, finalement?
Bah, dans ces deux dispositifs, hein, qui sont quand même deux dispositifs, que ce soit les appartements d'urgence ou le réseau d'accueil citoyen, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a peu de retours à domicile. Mais voilà, on est quand même sur un accompagnement de proximité, voilà, avec beaucoup de liens avec la femme qui est mise à l'abri.
Ouais, donc c'est, voilà. C'est positif.
Ouais, c'est,
Et la question que je me pose, ça existe qu'en Drôme, ça, ce dispositif, ou ailleurs?
Alors, à l'époque, en 2019, quand il était question de mettre en place ce réseau d'accueil citoyen, j'avais essayé de prospecter dans d'autres départements pour savoir un petit peu ce qui se faisait et puis voilà, prendre un peu des idées aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. J'avais rien trouvé à l'époque en 2019, j'avais pas trouvé d'expérience identique. Et depuis que le réseau a été mis en place dans la Drôme, l'Ardèche a aussi mis en place un réseau d'accueil citoyen. Aussi via le CIDFF, mais 07. Voilà.
C'est dommage parce qu'en fait, comme le CIDFF est quand même national, que cette bonne idée ne se propage pas plus que ça finalement. Est-ce que vous avez des communications? Enfin, je ne sais pas.
Pas tant que ça. Pas tant
que
ça,
dommage.
Entre les CIDFF. Hein. Et après, toujours une question de financement. C'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, enfin un financier on va dire, qui porte l'association qui porte le dispositif, hein, parce que forcément ça coûte, ben il faut un salarié qui s'en occupe, faut une psychologue, enfin donc après il faut que chaque CIDFF et département effectivement trouve un financeur, que ce soit le département, l'État, la région, qui vienne effectivement porter cette action.
Alors, juste pour dire, mais en fait, le CIDFF qui est national, hein, il y a forcément des salariés à l'intérieur de ce dispositif. Ils font quoi finalement? C'est juste de l'accueil téléphonique ou
dans les autres départements?
Ouais, oui.
Alors, en général, il y a toujours des juristes. C'est vraiment l'accès au droit. C'est vraiment une priorité au niveau des CIDFF. Et sur la majorité des CIDFF, on trouve des juristes. Ça, c'est vraiment... Par contre, des travailleurs sociaux, ce n'est pas toujours répandu dans tous les CIDFF. Il y a vraiment l'accompagnement juridique, l'accès au droit. Il peut y avoir aussi tout ce qui est pôle au niveau de l'emploi, avec des conseillères emploi.
Ça, c'est pour tout le monde.
Voilà. Mais l'accueil de jour ou les travailleurs sociaux, enfin, ça, on ne trouve pas dans tous les CIDFF. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous avez déjà eu des hommes victimes de violences?
Alors, au CIDFF, oui. C'est-à-dire, mes collègues juristes, dans le cadre de l'accès au droit, ont pu déjà rencontrer des hommes. Mes collègues aussi qui interviennent au niveau du commissariat et de la gendarmerie, qui sont ouvertes aussi à tout public et toute victime, ont pu rencontrer des hommes. Nous, à l'accueil de jour ici, c'est vraiment que les femmes. Et sur le réseau d'accueil citoyen, aujourd'hui, c'est que des femmes. Voilà.
Et vous ne pensez pas qu'il y a suffisamment peut-être de demandes pour un homme, ou c'est juste parce que c'est, voilà, on fait une chose déjà bien et après...
Voilà, le cadre initial était posé comme ça, vraiment les femmes pour l'accueil de jour et le réseau d'accueil, voilà, on a répondu sur le projet du département à la mise en place d'un accueil spécifique pour des personnes en situation de vulnérabilité. C'est comme ça que c'était posé. Et nous, on a axé sur les femmes victimes de violences.
Okay. Voilà. On arrive au terme, je pense, à moins que vous ayez vraiment quelque chose qui vous tienne à cœur, que vous ayez envie de diffuser.
Ben non, juste ce que je vous ai déjà évoqué, c'est-à-dire qu'on recherche, voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà, si on se pose des questions, si on a envie d'aller vers cette démarche d'accueillir, ne pas hésiter à contacter le CIDFF, à me contacter, on peut en parler. Comme je l'ai dit, ça peut être de l'accueil ponctuel, ça peut être pour du plus court terme, pour des femmes qui ont besoin de répit aussi, enfin... Il y a plein de choses qui peuvent s'envisager. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous pour que je vous présente le réseau. Et voilà.
De toute façon, je mettrai vos coordonnées sur le site de la radio. Comme ça, les gens pourront tout à fait vous retrouver, ou même sur Internet. Je pense que c'est facile à trouver, finalement.
Tout à fait, parce qu'en appelant le siège et en expliquant qu'on veut des informations sur le réseau d'accueil citoyen, ils seront mis en lien avec moi.
Donc, juste une petite question qui me trottine. Quand vous dites accueil de jour, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent comme ça directement, en fait ? Une femme qui est en difficulté, qui se dit, bon, bah, tiens, je sais qu'il y a un accueil de jour, j'arrive.
C'est pas la majorité, hein, c'est très à la marge. Et les personnes qui viennent, on va dire spontanément, c'est du bouche à oreille. C'est voilà, quelqu'un qui leur a dit, ben, tu peux aller là. Voilà. Mais c'est quand même pas, ma collègue fonctionne quand même plus sur rendez-vous. Parce que c'est des partenaires qui orientent, en fait.
D'accord. Voilà. Donc, les partenaires privilégiés, c'est assistante sociale, en priorité ? C'est-à-dire que quand on appelle le 115, ils nous dirigent vers quoi, d'emblée ?
Alors, non, le 115, quand on les appelle, ça va être mise à l'abri à l'hôtel. Et après...
Comment ça se passe ? Parce qu'on appelle le 115, mais c'est abstrait. Enfin, je veux dire, concrètement, il y a quelqu'un qui vient, et c'est qui ?
Quand on appelle le 115, la personne va, si c'est une femme victime de violence, qui doit être mise à l'abri à l'hôtel, parce que quand on appelle le 115, c'est l'hôtel, ils vont lui trouver une place, et il peut y avoir un bon de transport, un bon de taxi, avec un taxi qui vient la chercher et qui l'emmène dans l'hôtel pour la mettre à l'abri.
Elle se débrouille seule quand même.
Ça, elle le fait seule. D'accord ? Elle peut le faire seule. Ou si elle est à la gendarmerie, les gendarmes peuvent l'accompagner. Ou si elle est à l'hôpital, quelqu'un de l'hôpital peut l'accompagner. Voilà. Nous, en général, après qu'elle ait été mise à l'abri, par exemple, à l'hôtel, il va y avoir un professionnel qui va évaluer sa situation.
Un
travailleur social. Okay. Qui va lui dire qu'elle peut avoir un suivi avec l'accueil de jour du CIDFF. Et on va avoir un contact. Ma collègue Léonie Léchera, qui travaille à l'accueil de jour, va proposer un rendez-vous à cette dame.
D'accord, qu'elle peut refuser, c'est ça ?
Bien sûr. Oui. C'est toujours le volontariat, de toute façon. Voilà.
Ok, c'est une proposition.
Toujours des propositions, comme le réseau d'accueil citoyen. Si une dame se sent mieux à aller à l'hôtel que chez des personnes qu'elle ne connaît pas, parce que ça peut être une inquiétude, oui. Eh ben, elle ira à l'hôtel plutôt que sur le réseau.
On n'a pas parlé des procédures pour les accueillants.
Alors effectivement, donc si vous contactez le CIDFF parce que vous souhaitez accueillir des femmes victimes de violence à votre domicile, donc vous allez avoir un premier contact téléphonique avec moi. Ensuite, je vais vous faire parvenir une petite fiche à compléter avec un peu votre parcours, vos motivations, enfin voilà, un petit peu qu'on prenne connaissance un peu de votre profil et de pourquoi vous souhaitez accueillir. Et dans un deuxième temps, on va venir avec une collègue, donc à deux. On fait une visite à domicile pour venir voir vous rencontrer chez vous, voir l'espace que vous proposez pour l'accueil des femmes, seules ou avec enfants, ça dépend de la place que vous avez. Voilà, donc on vient à votre domicile avec une collègue. Et dans un dernier temps, le troisième temps, c'est de rencontrer la responsable de notre pôle, Cécile Fulchiron. Donc vous avez un entretien avec la responsable. Et à cet moment-là, si tout le monde en est d'accord, si toutes les conditions sont réunies pour tout le monde, il y a une sorte de contrat entre les accueillants et le CIDFF qui est signé avec la responsable.
Okay. On va repréciser sur l'aspect financier, c'est pas un frein, en fait, il n'y a pas une prise en charge financière forcément des accueillants.
Voilà, donc effectivement, ça c'est important de savoir que déjà, alors j'ai pas là en tête exactement une statistique là-dessus, mais toutes les femmes qu'on accueille ne sont pas en situation de ne pas avoir de ressources. Hein, il y a quand même, alors j'aurais envie de dire 50% des femmes, mais bon, c'est peut-être 40% des femmes qui ont des ressources, que ce soit parce qu'elles travaillent ou parce qu'elles ont des allocations. Et dans ce cadre-là, il est bien précisé qu'elles participent aux courses, notamment pour tout ce qui est alimentation.
Et juste là, ça me vient à l'esprit, mais alors du coup, quand les femmes n'ont vraiment aucun revenu, en fait, comment ça se passe ? Il y a peut-être une prise en charge RSA ou comment ? Il y a des choses qui se mettent que vous mettez en place du coup ou...
Voilà, il y a une ouverture de droit, effectivement, auprès de la CAF, hein, pour les femmes qui sont accueillies, où on va déclarer à la CAF la séparation, qu'elle est seule, et que du coup, elle va se mettre en place des droits RSA et aussi allocation familiale si elle a des enfants.
Et ça, c'est assez rapide, du coup, parce que c'est quand même des situations d'urgence. Voilà. La personne ne peut pas rester sans rien.
Donc, effectivement, on a quand même des liens étroits avec le service social de la CAF pour accélérer l'ouverture des droits des dames qui sont accueillies.
Okay. Donc, c'est pas un frein à l'accueil, en fait. Hein. Il n'y a pas une prise en charge de l'accueil. Je reviens là-dessus parce que c'est important.
Tout à fait. Okay. Voilà. Bon, super. Je suis bien contente de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré cette initiative que je trouve particulièrement intéressante.
Merci à vous.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse, elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, uppercute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, tomber ce n'est rien. Puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Oh,
Allez, on bouge les lignes.